Sébastien Huron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du groupe Virbac. Vous rencontrez en ce début d'année des investisseurs. Comment vous leur parlez des derniers mois du groupe? On parle avec vous, bien entendu, d'alimentation, notamment d'alimentation et de produits vétérinaires pour les animaux.
Oui, on est dans le secteur de la santé animale, effectivement. Alors, on est en période de blackout, c'est-à-dire en période où on peut communiquer que très peu, en fait. Donc, je ne vais pas leur parler des dernières tendances qui seront publiées le 19 janvier. Et donc, l'information sera publique à partir du 19 janvier, mais je vais confirmer ce qu'on a dit à fin septembre, à savoir que nous sommes sur une année 2021 qui s'est jusqu'à fin septembre très bien comportée, à la fois par un marché très dynamique et puis une exécution de la stratégie Virbac qui fait ses preuves maintenant depuis 3-4 ans avec de très très bons résultats à la clé. On avait à fin septembre, par exemple, une croissance supérieure à 20% à taux de change et périmètre constant pour vous donner un ordre de grandeur.
Justement sur ce marché, il y a eu bien entendu la crise, c'était 2020, ça a été compliqué dans cette période-là pour beaucoup d'entreprises, mais le marché lui-même, ce marché de la santé animale, qu'est-ce qu'on peut en dire entre 2020 et 2021 justement? Qu'est-ce qui a évolué sur ce marché?
Oui, effectivement, et c'est très intéressant parce que je suis souvent appelé dans des commissions avec d'autres entreprises, d'autres secteurs, et on voit que beaucoup de secteurs, y compris ici dans la zone des Alpes-Maritimes où il y a beaucoup de tourisme, ont été très affectés par la Covid, que ce soit le secteur des transports ou de l'hôtellerie, la restauration. Et nous, dans le secteur de la santé animale, c'est tout l'inverse. On a en fait bénéficié d'une forte croissance qui s'explique par plusieurs choses. D'abord, le télétravail. Je pense que le télétravail a fait que les gens restaient chez eux et en restant chez eux ont été en proximité plus grande avec leurs animaux de compagnie, leurs chiens ou leurs chats, ont pu plus facilement détecter des pathologies, un chien qui se gratte, un chien qui boite ou des choses comme ça, et donc ont plus facilement fait des visites chez le vétérinaire. Et donc on a vu une forte augmentation du nombre de visites chez le vétérinaire et aussi une augmentation du panier moyen des dépenses. On peut imaginer qu'en ayant moins de vacances, moins de déplacements, moins de restaurants, etc., le panier moyen qui a été dépensé par les propriétaires de chiens et chats a augmenté l'an dernier. Et donc, on a effectivement bénéficié d'un marché très porteur. Et sur ce marché-là, nous, on a fait une performance exceptionnelle puisqu'on est à une croissance à peu près deux fois celle du marché à fin septembre.
Alors, on le sait aussi, dans ces périodes-là, sur le plan industriel, il faut s'adapter, puisqu'il peut y avoir des à-coups, il peut y avoir la demande que vous venez d'évoquer. Quelles ont été les clés, justement, pour faire face à ce marché qui s'est bien porté?
Alors, on a été dans l'anticipation, beaucoup d'anticipation, très pragmatique. Par exemple, on n'a absolument mis aucun objectif sur les stocks. On avait libéré les équipes sur les dimensions stock. On leur a demandé de stocker un maximum sur tous les intermédiaires, tous les risques qu'il y avait. On savait qu'il y aurait des risques sur les flacons, les bouchons de flacons, les filtres, etc., pour la production biologique, par exemple, des vaccins. Et donc, on a libéré les équipes de toutes ces contraintes-là. On a été très pragmatique et on a anticipé la crise très tôt dans l'année en demandant d'avoir un maximum de stock sur tous les produits, tous les intermédiaires, de manière à ne pas être en rupture pendant l'année. Et c'est quelque chose qu'on a plutôt bien exécuté en 2021.
Toutes les entreprises ont été confrontées, on l'a dit, à la crise sanitaire au sujet avec la Covid. Ça a pu générer des absences, ça a pu générer de la désorganisation. Globalement, vous en êtes bien sorti de ce côté-là?
Oui, alors là, on a une grande chance. Je disais tout à l'heure qu'on a la chance d'être dans le secteur de la santé animale. On a aussi une énorme chance d'être chez Virbac. Quand on me pose la question de pourquoi Virbac réussit aussi bien, ça fait 4 ans qu'on a une croissance très supérieure au marché, année après année. Je dis, il y a trois éléments, à la recette. Alors, il y a différentes manières de le présenter, mais il y a trois éléments. Je parle de la stratégie. Je crois qu'on a une stratégie robuste, qui fait ses preuves, qui marche, mais plus que la stratégie, parce que toutes les sociétés ont une stratégie. C'est notre capacité à l'exécuter, la rigueur, la discipline d'exécution de la stratégie. Je crois que c'est là la force de Virbac. Mais le dernier élément, qui est en fait le premier élément, c'est le premier élément qui fait la réussite de Virbac, c'est la culture d'entreprise. Et cette culture d'entreprise, elle est incroyable. Elle nous est très bien communiquée par les nouveaux entrants, les personnes qui viennent d'autres groupes, de groupes pharmaceutiques, par exemple humains, qui viennent nous rejoindre et qui nous disent, c'est incroyable l'engagement des équipes Virbac, la manière dont les équipes sont passionnées par cette société, passionnées par ce qu'elles font, la manière dont elles sont engagées. Et c'est vrai que dans ces périodes de crise, de tension, c'est là qu'on reconnaît les grandes valeurs des équipes. Et notre culture d'entreprise qui se traduirait par un engagement indéfectible, incroyable de nos équipes, est probablement la clé numéro une de notre réussite. Et c'est cette culture d'entreprise dont on est si fier et qui justifie, à mon sens, tous les résultats de 2021.
Alors, on parlait des animaux de compagnie, chats, chiens et autres, puisque maintenant, la liste s'allonge. Du côté des animaux de production, le marché a aussi été significatif en progression.
Alors, pas autant. Il y avait un effet de rattrapage parce qu'en 2019, il y a eu une pandémie qui a touché les porcs, les cochons. La moitié des cochons en Chine sont décédés. Or, la Chine, c'est à peu près la moitié du cheptel porcin mondial. Donc, vous avez 25-30% de la population mondiale de cochons qui a été décimée. Eux aussi ont souffert d'une pandémie. Voilà, et donc il y a eu un effet de rattrapage sur les années 2020-2021 sur ce secteur-là. Les restaurants ayant réouvert, il y a eu un effet de rattrapage aussi sur les stocks des vaches et des bovins. Donc on a vu un marché plutôt positif, plutôt porteur, mais pas dans la dimension des animaux de compagnie, mais tout de même plutôt solide, plutôt porteur. Il n'y a que le marché du saumon qui, lui, a pris un peu de retard. Ce sont des cycles de production plus longs. Un saumon, c'est 2 ans, 2 ans et demi, presque 3 ans de production. Donc c'est des cycles plus longs qui a une inertie plus grande. Et sur lesquels on a encore vu en année 2021 des tendances plutôt faibles et où on espère avoir un rattrapage à l'avenir.
Alors, on parlait avec vous du sourcing, hein, il y a quelques minutes. Il y a aussi un autre sujet qui intéresse beaucoup d'entreprises et qui est là aussi d'envergure mondiale, c'est le sujet de l'inflation. Comment vous faites de ce point de vue-là, puisque on a vu sur les matières premières, sur beaucoup d'éléments, vous parliez des flacons, la logistique, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui impactent effectivement les entreprises pour Virbac.
Ben, ce sont les 2 enjeux principaux de 2022, hein, sur lesquels on communiquera dans les semaines, dans les mois à venir, mais qui sont des éléments assez connus et assez publics. C'est un, la tension sur tout ce qui est logistique, matières premières, intermédiaires, je parlais des filtres, etc., et de tout ce qui est lié à la logistique et à la dépendance de notre industrie de pays comme la Chine, avec le risque en plus que la Chine ait une approche très zéro Covid, et ce qui fait qu'avec des variants moins dangereux, mais probablement beaucoup plus contaminants en fonction des décisions politiques qui se feront en Chine, on risque d'avoir des tensions sur les chaînes de production, les approvisionnements. Donc ça, c'est pareil, c'est une appréhension qu'on essaie d'anticiper en ayant des niveaux de stock peut-être plus élevés et en gérant ça de cette manière-là. La deuxième, c'est l'inflation. Donc, c'est les deux sujets, hein, tension sur les approvisionnements et l'inflation. Alors, l'inflation, à mon avis, elle va rester un petit peu plus de temps que ce que certains experts disent, parce que c'est une inflation de coûts. Ce n'est pas nécessairement une inflation d'offres et de demandes, c'est une inflation de coûts. Les monnaies dans les pays émergents ont dévissé. On voit une pression sur les matières premières qui sont souvent achetées en dollars ou en euros sur ces pays-là. Donc, il y a une structure de coûts qui augmente dans ces pays-là et bien sûr, donc, une inflation qui est poussée par le coût des produits, et qu'on va devoir répercuter en partie, en tous les cas, dans les prix. Donc, ça va être un défi important pour l'année 2022. Et c'est effectivement le point d'attention principal qu'on aura dans l'exécution du plan 2022, c'est notre capacité à préserver nos marges, sachant que cette inflation a été très soudaine, très rapide. Elle est comme ça. Donc, certains disent qu'elle va s'estomper très rapidement comme elle est venue. Mais en attendant, ça sera important de développer des réflexes adaptés qui n'ont pas été exercés, on va dire, depuis plusieurs années, puisqu'on travaillait dans des marchés à faible inflation, voire inflation zéro.
Voilà, oui, c'est un vrai changement sur justement la visibilité de 2022, après cette année 2021 qu'on a rappelée. Quelle est-elle et quelles vont être vos priorités?
Oui, alors, comme je disais, on était en période de blackout, donc je ne peux pas communiquer sur la guidance de 2022. Ça sera fait dans les prochains jours. 19 et 20 janvier, vous aurez toute l'information. Donc, on communiquera à ce moment-là sur les perspectives 2022. Les enjeux, je viens de les expliquer, c'est la logistique, la supply et puis l'inflation. Pour le reste, je pense que le marché reste comme on le voit actuellement, c'est-à-dire plutôt porteur et on n'a pas de, on attend de voir ce qui se passe, mais pour l'instant, on n'a pas de signe particulier vis-à-vis de ça.
Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, Sébastien Huron, et à très bientôt donc pour reparler effectivement de Virbac.
Merci beaucoup et une très très bonne année à vous tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses.